tous et bienvenue autour de votre grande table. Après Le péché blanc de l'esclavage dans Underground Railroad, sorti en 2017, premier prix Pulitzer, il a choisi de raconter la ségrégation dans Nickel Boys, deuxième prix Pulitzer, à travers la figure méritante du jeune Elwood. Noir dans un monde de blanc, Elwood rêve d'égalité au son de Martin Luther King. Victime d'une erreur judiciaire, il va vivre le cauchemar d'une maison de correction. Inspiré d'une histoire vraie dans la Floride des années 60, ce roman coup de poing est aussi celui de George Floyd, de l'Amérique d'aujourd'hui, un roman qui questionne les inégalités. Valeur montante de la littérature américaine, son auteur Colson Whitehead est notre invité à l'occasion de la parution en France de Nickel Boys chez Albin Michel. Bienvenue à tous, une émission à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Nous ne devons laisser personne, ni aucune force, nous donner l'impression que nous ne comptons pas. Nous devons croire au fond de nous que nous sommes quelqu'un, que nous sommes importants, que nous avons de la valeur. Et nous devons avancer dans nos vies forts de ce sentiment de dignité et de valeur.
Et bonjour Colson Whitehead.
Hey, howdy.
Vous êtes avec nous en direct de New York où vous vivez. Impossible pour vous de venir en France pour la sortie de ce livre Nickel Boys, votre nouveau roman chez Albin Michel, à cause de la pandémie et de la crise sanitaire, bien sûr, qui nous fige tous et nous immobilise chacun dans nos pays. À mes côtés, votre voix française, Robert Wolfenstein. Bonjour.
Bonjour.
Et ce Nickel Boys a été traduit de l'américain par Charles Recourcet pour les éditions Albin Michel. C'est la voix et le disque que votre héros, jeune héros, Elwood, écoute en boucle. Il est élevé par sa grand-mère, il vit dans cette Floride des années 60, la voix, bien sûr, de Martin Luther King. Quelles idées le révérend lui met-il dans la tête ?
Oui, ce roman s'appuie sur une histoire vraie, hein, d'une maison de correction très brutale dans le sud de la Floride. L'histoire aurait pu se passer en 1925, en 1945, ou même en 2011, date à laquelle cette école a fermé. Mais enfin, j'ai choisi cette date, 1963, parce qu'on était vraiment au temps fort des lois Jim Crow, de ségrégation contre les Noirs, mais également au temps fort du mouvement des droits civiques. Dans les années 60. Donc vous avez d'un côté le côté sombre, mais également la lumière et le personnage qui doit se retrouver dans ce monde qui est défini par la race et la subjugation d'une race sur l'autre. Et puis en 1963, date du livre, évidemment, Martin Luther King était un personnage important pour tout ce qui était manifestation et autres.
La Nickel School, ce n'est pas une prison, hein, c'est une école de redressement, ou plutôt une maison de correction où sont envoyés des jeunes garçons, pas 18 ans encore, pour être corrigés. Ils n'ont souvent pas fait grand-chose, d'ailleurs, de menus petits larcins, quand ce ne sont pas des erreurs judiciaires qui les ont envoyés entre les murs de cette école. Vous faites le lien avec aujourd'hui. Est-ce qu'une seconde, vous, l'écrivain, le romancier, Colson Whitehead, vous vous êtes projeté 50 ans plus tôt? Est-ce que vous vous êtes demandé quel Nickel Boys vous auriez été?
Excellente question. Quelquefois, moi, je me mets dans la peau de mes personnages, les principaux personnages ou même les secondaires, quelquefois pas du tout. Dans le cas des Nickel Boys, il y a un peu de moi dans Elwood, dans Turner. Elwood pense que le monde peut changer si on résiste, si on se bat. Turner se dit qu'il n'y a pas, le progrès social n'existe pas, que les gens ne changent pas, tout ce qu'on peut faire c'est survivre. Je me reconnais un petit peu dans les deux. Quelquefois, j'ai de l'espoir, quelquefois, j'ai moins d'espoir. Quelquefois, c'est mon côté Turner qui l'emporte, parce que regardez le monde aujourd'hui, on voit qu'effectivement, les gens ne changent pas beaucoup, l'ordre social ne change pas.
Elwood, votre jeune héros, il a un vrai rejet de l'autorité depuis et pendant son séjour à Nickel. Vous, quel rapport entretenez-vous comme homme, comme citoyen, à l'autorité ?
Vous savez, je suis écrivain, donc l'idée d'avoir un emploi fixe, d'être salarié, d'avoir des patrons, évidemment, ça ne me plaît pas du tout. Je n'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut faire. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi un métier où je reste chez moi toute la journée et c'est moi qui définis mes propres règles. Ce qui fait de moi un peu un rebelle, j'imagine. C'est vrai que les structures institutionnelles ne me conviennent pas. J'ai choisi un mode de vie qui me permet d'être un peu plus isolé.
L'écrivain n'a ni Dieu ni autorité suprême.
Disons qu'il faut se limiter à ses compétences. Hein. On est finalement le sujet de son propre talent. Mon patron, c'est le critique en moi qui me dit cette phrase est nulle, cette histoire ne tient pas debout, ce paragraphe est illisible. Hein, c'est le contrôle de qualité qui est en fait mon Dieu ou mon maître.
Règle numéro un pour Elwood, quel que soit le sujet, toujours se ranger dans le camp opposé à l'autorité. Flics et politiciens, hommes d'affaires et juges, tous des salauds, hein, pour lui, qui tirent les ficelles. Je vous cite, je vous lis, extrait de Nickel Boys, Colson Whitehead. Les travailleurs les tiennent par les couilles, qu'est-ce qu'ils attendent pour serrer, disait-il. Entre le maire, Bim et Nixon qui se foutaient d'eux, ça lui donnait presque envie de voter, mais il évitait autant que possible les contacts avec l'administration, histoire de ne pas tenter le diable. Les Noirs sont des Américains et leur destin est le destin de ce pays. Elwood lit James Baldwin, chronique d'un pays natal, et dans les moments durs, il se répète les mots du poète pour se donner du courage. James Baldwin, dans la voix de Samuel Lee Jackson pour la version américaine, Joe Starr dans sa version française. On va l'écouter revenir sur les codes de la réussite américaine dans cet extrait du film documentaire « I am not your Negro » de Raoul Peck.
What I'm trying to say to this country.
Ce que j'essaie de dire à ce pays, de nous dire à nous, c'est que nous devons savoir. Il faut que nous en soyons conscients. Aucune autre nation au monde n'a jamais été aussi opulente et belle à voir, aussi protégée, aussi heureuse, aussi irresponsable et aussi morte. Aucune autre nation ne peut se permettre le rêve de posséder une Plymouth. Une femme, une maison avec clôture, des enfants qui grandissent en toute sécurité pour aller à l'université et devenir des cadres qui se marieront et auront la Plymouth, la maison et le reste. Beaucoup de peuples ne vivent pas ainsi et ne peuvent même pas l'imaginer. Ils ne savent pas que lorsque nous parlons de démocratie, c'est cela que nous entendons.
That when we talk about democracy, this is what we mean.
En pensant à la Plymouth, Colson Whitehead, qui va faire chuter Elwood, puisqu'il va se faire arrêter dans cette voiture volée par un homme qu'il a simplement pris en autostop. Est-ce que vous aviez, vous, en mémoire, ces mots de Baldwin, ou est-ce que c'est un pur hasard?
Non, je l'avais choisi au hasard, la Plymouth. J'avais une image de voiture dans ma tête, j'ai cherché des images sur Google jusqu'à ce que je trouve le nom de la voiture que j'avais en tête. Donc, ça faisait un bout de temps que j'avais lu l'œuvre de Baldwin, j'avais vu ça au cinéma, je ne me rappelais même plus dans quel passage ça se retrouvait.
Parce que vous écrivez, le shérif adjoint avait sorti son arme, ils sont arrêtés l'un et l'autre. Elwood va en fait à l'université pour la première fois, il est enthousiaste et donc il fait de l'autostop et il se fait arrêter avec ce voleur de voiture. Le shérif adjoint avait sorti son arme. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand on nous a dit de chercher une Plymouth, sourit le shérif. Il n'y a qu'un nègre pour voler ça. Et là, dans cet extrait, on entend bien James Baldwin présenter cette voiture comme une illustration de la réussite américaine. Quelle place attribuer à cet endroit dans la trajectoire de la vie de votre jeune héros? Elwood va d'abord chercher un sens à sa présence dans cette école, cette maison de correction, avant de se laisser gagner par l'abjection du lieu. C'est un lieu qui se dit école, mais alors dans ce cas, une école qui n'instruit pas, qui ne répare pas, mais qui au contraire casse et humilie. Ce lieu, c'est une réalité, vous l'avez évoqué, Colson Whitehead, mais c'est aussi un vrai cauchemar orwellien.
Alors, il faudrait peut-être pas exagérer. Bien entendu, il y a eu des maltraitances d'enfants, des enfants qui se sont fait tuer. Et j'avais pas besoin d'exagérer la réalité pour écrire ce roman, de même que dans mes autres romans sur l'esclavage, la réalité dépassait même la fiction. Et donc, dans les personnages, j'ai pas dû chercher très loin. Mais c'est vrai que les personnages se retrouvent dans cette espèce d'enfer orwellien où ils se retrouvent dans une situation répression qui est d'une brutalité fasciste qui les dépasse complètement. Effectivement, je vois le lien avec Orwell. On essaye d'échapper à tout cela et puis finalement, il ne reste, comme vous l'avez dit, que l'abjection.
On ne brûle pas les livres puisqu'il n'y en a pas, mais on inculque l'ignorance. Pourquoi ces gens qui tiennent cette école ont-ils tellement peur que ces enfants apprennent quelque chose?
Déjà, du temps de l'esclavage, il était interdit d'éduquer les esclaves. Hein, un blanc qui enseignerait un noir se retrouvait en taule. Donc, il y avait cette absence d'éducation, et c'est la raison pour laquelle, des années plus tard, les écoles de noirs avaient moins de financement, n'avaient pas de livres, n'avaient pas d'accès aux bibliothèques, et donc si vous viviez dans un milieu ou dans un quartier noir défavorisé, il n'y avait pas d'accès à l'éducation. Il n'y a pas d'accès justement à la bibliothèque. Alors que celui qui sait lire détient le pouvoir entre les mains. Et si on peut empêcher à quelqu'un d'avoir accès à ce savoir et donc à ce pouvoir, évidemment, on a une véritable maîtrise de ces personnes.
Vous avez dit, Colson Whitehead, que ce qui vous a inspiré ce roman, c'est une histoire réelle. Cette école, même si elle ne s'appelait pas la Nickel School, a existé autrement, avec un autre nom. Mais vous vous êtes beaucoup inspiré de ce que vous en avez lu. Comment vous avez découvert ce qui se passait entre les murs de cette maison de correction ?
Vous savez, pour mes romans, pour mes livres, je m'inspire d'autres romans, de films, de documentaires. Là, c'était un documentaire que j'avais vu dans l'été de 2014. Alors, l'école réelle avait fermé, mais il y a eu des fouilles archéologiques parce qu'on avait retrouvé des tombes non marquées. Il y avait des enfants qui étaient morts de mort naturelle, mais d'autres de mort très suspecte. Certains avaient été manifestement tués par balles. Certains présentaient des blessures au crâne. Alors, c'était pendant les manifestations de Ferguson. Vous aviez Michael Brown, Earl Garner, des Noirs qui avaient été tués par des flics blancs, des policiers blancs. Et donc, on voyait beaucoup de choses qui convergeaient à cette époque. Et puis, ce qui s'était passé dans cette école, dont le vrai nom était Dozier, était un petit peu le reflet de tout ce qui se passait à l'époque. Vous aviez les auteurs de ces crimes perpétrés contre les Noirs qui n'étaient jamais punis, qui n'étaient jamais traînés en justice. Et ceux, les victimes, les gamins innocents qui se sont retrouvés dans cette maison de correction épouvantable, subissaient les pires traitements et puis se retrouvaient, s'ils survivaient, se retrouvaient dans la nature avec des traumatismes insurmontables. Donc il y avait cette convergence d'événements, dans cet été de 2014 où j'ai pu relier les événements de Dozier avec toute la question qui faisait débat à l'époque, la brutalité policière et tout ça, c'est ce qui m'a fait penser à toute cette question.
Et comme dans Underground Railroad, l'un de vos précédents romans sorti en 2017, premier prix Pulitzer pour vous, Colson Whitehead, vous menez un véritable travail de mémoire à travers la fiction, un travail d'archéologue aussi et d'historien en tentant de rétablir une certaine vérité, celle de ces garçons qui, même morts, et c'est la première phrase du roman, même morts, les garçons étaient un problème. On va écouter un extrait d'une archive de CNN lors de la découverte de ce cimetière clandestin justement dans l'école par des élèves.
Un mystère habite les lieux de cette maison de correction pour garçons située dans la ville de Mariana, sur la côte californienne. Des adolescents envoyés là il y a des décennies et dont certains n'ont jamais été revus depuis. Ces dernières années, d'anciens étudiants, âgés désormais, ont raconté des histoires horrifiques de punitions abusives infligées par certains directeurs et surveillants. Des histoires racontées par CNN. Ils accusaient ces anciens directeurs de les battre, d'abus sexuels et même de meurtres. L'école a fermé l'an dernier. Ces faits se sont déroulés des années 40 aux années 60. La plupart des directeurs de l'époque sont morts.
Voilà, on a l'impression que aujourd'hui encore, toute la lumière n'a pas été faite sur cet endroit, et notamment sur le cimetière clandestin, où ont été enterrés sans sépulture des garçons que personne ne recherchait ou dont on disait qu'ils s'étaient échappés. Et c'est ce que vous racontez dans ce roman, Colson Whitehead. Qu'est-ce que vous espérez avec ce livre? Une sorte de reconnaissance officielle? Peut-être une condamnation qui n'est jamais vraiment advenue.
Écoutez, lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, et je le pense encore, c'est que les auteurs de ces crimes doivent être punis alors qu'ils continuent à vivre dans l'impunité et les victimes ne connaissent jamais la justice. Alors, c'est vrai qu'on me demande si ce roman va aboutir à, je ne sais pas, une nouvelle législation, des auditions au Congrès ou que sais-je. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on puisse créer des nouvelles lois simplement à la lecture d'un roman. Il ne faut pas trop croire au pouvoir de l'art pour faire changer les choses, pour faire bouger les choses. Pour autant, les romans, les poètes, les poèmes, même la musique peuvent faire bouger les consciences. Je ne pense pas que ce roman sera le moteur d'un changement sociétal, mais par contre, ce que j'espère au moment d'écrire ce roman, c'était évidemment de créer une œuvre d'art qui soit à la hauteur de mes ambitions, que je ne sois pas déçu de mes attentes sur ce plan-là, mais pour la suite, ce que j'espère, c'est que le public aimera ce livre, mais c'est tout ce que je peux espérer.
Le jury du Pulitzer a consacré, selon ses mots, un conte puissant sur la persévérance, la dignité et la rédemption humaine. On a envie de dire que ce roman, s'il est un hommage à l'infinie fraternité de ces garçons brisés, comme vous l'écrivez, Colson Whitehead, est aussi un récit à valeur universelle qui dénonce une forme de méchanceté humaine. Le plaisir que certains trouvent presque gratuitement, à torturer, à humilier ou à rabaisser. Est-ce que pour vous, il y a quand même un message que vous souhaitez adresser au lecteur ? Cette idée de toujours garder la tête haute ?
The Dozier School.
Eh bien oui, il y a un message, c'est-à-dire que cette école Dozier était épouvantable, tout le système ségrégationniste, de même que l'esclavage, ce sont des choses condamnables. Elwood et Turner se disent qu'il existe dans ce monde des endroits meilleurs que cette épouvantable école, donc il y a cet espoir, et dans le cadre du roman, les deux tiers du roman se passent dans les années 60, et le reste se passe à l'âge adulte de Elwood dans les années 70-80, et il essaie de se reconstruire de manière cohérente. Comment ressortir d'un tel traumatisme? C'est l'histoire d'un parcours. Et certains survivants arrivent effectivement à survivre, arrivent à aimer, à être aimé, à trouver leur voie dans le monde. Ce que j'ai essayé de faire ici, c'était un petit peu de raconter justement ce parcours. Comment on peut devenir quelqu'un, un nouveau soi-même, un être cohérent qui a réussi à surpasser la maltraitance, le traumatisme, mais qui arrive à être une personne entière.
Est-ce que vous pensez que le pays a parcouru un même chemin depuis les lois Jim Crow, dont vous parlez dans le roman, qui ont légitimé à l'époque le suprémacisme blanc et institutionnalisé la ségrégation ?
Malheureusement, non. On vient d'élire à la présidence un suprémaciste blanc et donc on aurait tort de penser qu'il y ait eu véritablement un parcours et que nous soyons arrivés quelque part. Aux États-Unis, le suprémacisme blanc, le racisme ne seront pas vaincus de mon vivant. Peut-être mes enfants, mes petits-enfants verront l'Amérique changer un petit peu, on peut l'espérer, mais 49% de la population a décidé de mettre Trump au pouvoir et Trump bénéficie encore d'un large soutien populaire. Et dans cette population, il y a beaucoup de, pas seulement du racisme, de la xénophobie et une forme de corruption politique sans précédent. Donc on a encore du chemin à faire.
Mais peut-être que Donald Trump était un peu l'erreur de parcours, justement, après l'élection et le double mandat d'un Barack Obama, avec la force aussi du symbole d'un président noir, le premier aux États-Unis. Est-ce que cette année électorale qui s'ouvre avec un Joe Biden officiellement maintenant candidat démocrate et une colistière, femme et noire, Kamala Harris, sénatrice de Californie, vous pensez que cette année peut marquer un tournant ? Vous suivez cette actualité-là de près, vous, Colson Whitehead ?
Évidemment, je suis l'actualité au plus près. Il y a encore 88 jours avant les élections, donc j'espère que nous pourrons justement corriger cette erreur de parcours que vous évoquez, que en quelques années nous serons un petit peu remis de cette malheureuse tendance à reproduire le fascisme que l'on retrouve en Amérique latine et dans certains pays d'Europe. Enfin, le fait d'avoir élu un président noirs ne constituent pas une espèce de baguette magique qui fasse qu'on ait dépassé le racisme. La seule chose qu'on pourra tirer de l'élection de Trump, c'est que maintenant, plus personne ne pourra dire des choses aussi stupides qu'il l'avait dit, notamment au sujet des races.
J'aimerais qu'on écoute encore les mots de Martin Luther King, cette fois dans une interview à propos de l'amour, sujet que l'on retrouve dans votre roman Colson Whitehead.
Je ne vois pas l'amour comme des niaiseries. Je vois l'amour comme quelque chose de fort, organisé en action directe et puissante. C'est ce que j'enseigne dans le Sud. Nous ne sommes pas engagés dans une lutte consistant à s'asseoir et ne rien faire. Il y a une grosse différence entre non-résistance au mal et résistance non-violente. Je crois que nous pouvons cependant être sûrs qu'une large majorité de Noirs participant aux manifestations et comprenant la philosophie non-violente sauront faire face à des chiens ou à toute autre méthode brutale sans répondre par la violence, car ils comprennent que l'un des premiers principes de la non-violence est la volonté d'accepter cette violence sans jamais en infliger à personne.
La force de l'amour, Colson Whitehead, vous écrivez dans Nickel Boys, non, décidément, il n'arrivait pas à franchir le pas de l'amour. Il ne comprenait pas plus le point de départ de cette proposition que le désir de l'accomplir. On sent que votre personnage, Elwood, qui suit au pas ou au mieux qu'il peut l'appel du révérend, a continué à aimer ceux qui vous jettent en prison. Ça, c'est le point sur lequel il bloque. Ça lui semble inaccessible. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce que vous avez en vous peut-être trop de colère pour arriver à franchir ce pas et à être en accord avec ces mots de Martin Luther King? Continuez à aimer ceux qui vous jettent en prison.
Vous savez, je n'ai jamais même pensé à l'idée, c'est-à-dire d'avoir d'éprouver de l'amour pour celui qui m'opprime. Mais enfin, quand on voit les personnages réels de Martin Luther King ou de Elwood, ce sont quand même des personnages assez uniques. C'est-à-dire, comment arriver à intégrer les idéaux de Martin Luther King? Il faut une personnalité exceptionnelle. Mais il n'était pas seul, parce que Martin Luther King a entraîné avec lui des milliers, des millions de gens qui ont pu peu à peu amener une certaine forme de changement social. Donc, ça peut paraître un peu miraculeux de tenir en soi une espèce de code moral qui dépasse peut-être à nous certaines espérances. Mais pourtant, vous avez des Martin Luther King qui vivent parmi nous et qui, quelquefois, réalisent des miracles.
Et pour un Américain de votre génération, vous êtes né en 1969 à New York, Colson Whitehead. Est-ce qu'un Martin Luther King ou peut-être plus un James Baldwin ont compté pour vous, comme ils ont compté pour Elwood ou Turner dans le livre?
Ah bah oui, lorsque j'étais gamin dans les années 70, j'étais quand même conscient des mouvements de droits civiques. Alors j'étais peut-être un peu naïf, je me suis dit, voilà, on a tout dépassé, tout va mieux. Et ensuite, j'ai un peu perdu mes illusions en constatant que les choses n'avaient pas changé à ce moment-là. Alors je n'ai jamais rencontré personnellement James Baldwin, ni au lycée, ni à la fac. Mais enfin, j'ai fini par rencontrer le personnage et son œuvre bien plus tard. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi Toni Morrison, il y a d'autres auteurs et artistes que l'on découvre et de manière beaucoup plus profonde qu'il y a aujourd'hui, qu'il y a peut-être même 30 ou 40 ans. Donc il y a une certaine évolution, et je crois que vous parlez d'espoir, c'est notre nouvelle génération, des gamins qui sont encore adolescents ou qui ont une vingtaine d'années, peuvent tirer les enseignements des erreurs du passé et s'inspirer des auteurs d'autrefois. Alors je ne sais pas si les changements se produiront aujourd'hui, mais je pense quand même que les générations futures seront capables d'amener ce changement.
À ce propos, question à l'écrivain. Deux Pulitzer pour vous, Colson Whitehead, qui vous place ex aequo avec un William Faulkner, un John Updike ou Booth Tarkington. Ça vous fait quoi? Est-ce que parmi ces trois noms, il y en a un qui vous fait rougir ou que vous êtes content d'égaler aujourd'hui par la reconnaissance littéraire de ce prix?
Écoutez, je crois qu'à l'instar de vos auditeurs, je crois que la plupart des gens ne savent pas qui est Booth Tarkington. Moi, j'ai découvert son nom ce printemps seulement, c'est vous dire. Alors, vous savez, la célébrité, c'est une passade, c'est quelque chose qui ne dure pas. Par contre, une œuvre peut, elle, durer. Ce que j'espère, c'est que mes deux ouvrages ont trouvé leur public, pas simplement chez les lecteurs, chez les critiques également. Peut-être que dans 10 ans, tout sera oublié. Ce sera le moment d'écrire un autre livre. J'espère que le prochain, je ferai de mon mieux et je ferai de mon mieux pour le suivant. Donc, je ne veux certainement pas m'endormir sur mes lauriers. Chaque livre est sa propre bataille et ce que j'espère à chaque fois, c'est de livrer cette bataille victorieusement sans trop faire de mal à l'idée d'origine.
J'ai une dernière question. À un moment dans le roman Colson Whitehead, trois hommes viennent inspecter l'école qui est pour l'occasion repeinte du sol au plafond, dont la terrible salle des sévices, dite Maison Blanche ou Marchand de Glace. C'est selon, et vous l'expliquez dans le roman, la peau des garçons blancs ne marquait pas comme celle des garçons noirs. Et c'est pourquoi ils appelaient l'endroit le Marchand de Glace. Parce qu'on sortait avec des hématomes de toutes les couleurs. Les noirs, eux, l'appelaient la Maison Blanche parce que c'était son nom officiel. Il lui allait bien et il n'y avait rien à ajouter. La Maison Blanche édictait la loi et tout le monde obéissait. Colson Whitehead, si on gratte un peu derrière le vernis de cette école repeinte, mais aussi de l'Amérique d'aujourd'hui, on voit peut-être la violence de notre monde à tous ressurgir. Est-ce que c'est pour vous, cette école, cette scène, une métaphore aussi de l'Amérique ?
Oui, il y a une métaphore assez évidente. Mais d'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver effectivement la violence sous une surface trompeuse. Alors effectivement, cette maison de torture s'appelle la Maison Blanche. C'était le nom que leur donnaient réellement, d'ailleurs, les enfants dans cette école, dans cette maison de correction. Et la violence n'était jamais très loin. Et là encore, je n'ai pas eu besoin de me forcer beaucoup pour faire sentir l'atmosphère de violence qui y régnait.
Merci beaucoup à vous, Colson Whitehead, d'avoir été avec nous. Merci mille fois d'avoir participé cette demi-heure même à distance à la Grande Table Culture aujourd'hui. En espérant vous retrouver très bientôt ici à Paris pour un prochain roman. Colson Whitehead, Nickel Boys, votre nouveau roman vient de paraître chez Albin Michel. Merci.
Thank you.